Parmi les cinq sens, c'est la vue qui est la plus sollicitée dans la médiation du patrimoine. Pourtant, d'autres manières de percevoir existent. C'est le cas des dispositifs dédiés aux publics empêchés, comme les non-voyants ou les personnes déficientes intellectuelles. Mais plus globalement, la médiation sensible permet-elle de s'adresser à tous les visiteurs en tant que public universel?
Le travail sur les sens, le travail émotionnel, je pense que les musées le prennent de plus en plus en charge et on sait que ça ne va pas servir qu'à un seul public, ça sert à tous les publics.
Pour en savoir plus sur les usages de la médiation par le sensible, nous avons souhaité rencontrer Laurence Dain, chargée de développement et de politique des publics du Château des Ducs de Bretagne.
Donc dans le cadre de mes missions, je développe en fait des projets en lien avec les publics. Donc, en prenant en compte la spécificité de ces publics. Et je m'occupe aussi en fait de l'évaluation qualitative en fait au sein du château. J'ai eu la chance en fait d'arriver au château au début des années 2000, au moment où le château en fait était un lieu qui était en fermé et en restauration. Et surtout à l'époque en fait, l'équipe a travaillé sur la création du musée d'histoire de Nantes. On a travaillé avec l'équipe en fait scientifique sur en fait aussi mettre des dispositifs en place pour permettre en fait au public qui avait une déficience sensorielle de pouvoir d'avoir des outils à leur disposition dans le parcours et de manière pérenne. À l'époque en fait les grands modèles d'accessibilité c'était par exemple la salle qui avait été construite au Louvre pour la déficience sensorielle où en fait on pouvait toucher des facsimilés de grandes sculptures classiques du Louvre et en fait où finalement enfin les gens étaient un peu circonscrits dans cet espace-là en fait nous on voulait qu'ils puissent avoir une expérience de visite qui soit la plus proche possible de n'importe quel visiteur. Et donc on a travaillé de concert avec l'équipe de conservation. Enfin, et l'équipe scientifique pour se dire comment, en fait, une personne déficiente visuelle peut faire le parcours et avoir, en fait, une relative autonomie. Et donc, on a créé à l'époque des cartes tactiles, aussi contrastées en braille et gros caractères. Donc, ça, c'était important. C'est-à-dire qu'on a pris en compte que certains visiteurs lisaient le braille et le tactile, et que d'autres, parce qu'ils avaient en fait des maladies, par exemple, liées à la dégénérescence maculaire, eux auraient besoin du gros caractère et du contrasté. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des œuvres qui étaient importantes, mais qui étaient des œuvres en deux dimensions. Multiplier en fait les dessins tactiles, c'était pas forcément la bonne solution, et qu'il fallait en fait aussi faire sans doute donc de l'audiodescription dans notre cahier des charges. On avait aussi un parcours audio-guidé pour les déficients visuels, qu'on l'a coécrit avec les personnes déficientes visuelles. Ce qui était important, c'est qu'on a gardé le même schéma que pour le grand public. À chaque fois qu'on rentre dans une salle, il y a 32 salles à découvrir, c'est un long parcours. On décrit la salle, mais on décrit la salle, c'est-à-dire je suis une personne non-voyante. Quand je rentre dans cette salle, je vais avoir des sensations en fait physiques. La salle est petite, la salle est grande, la salle résonne. Donc là, on l'a vraiment écrit. Et puis, on précisait dans cette salle de quel moment de l'histoire de Nantes on parle et qu'est-ce qui va être à leur disposition d'un point de vue tactile. Donc, ça peut être un objet à toucher, ça peut être une carte tactile ou ça peut finalement être un commentaire assez global de la salle. Ça dépend. Quand vous intégrez dans la muséographie des dispositifs de manipulation, que pour quels que soient les publics, dans l'idéal, il faut donc travailler pas notamment pour, mais avec les personnes. On a invité des personnes non-voyantes à aussi expérimenter le fait de toucher ces objets. Et ensuite, il y a eu un travail assez fin avec l'équipe de conservation parce que le toucher, dans ce cas-là, était pas, ne devait pas être anecdotique. C'est-à-dire que dans la première sélection qu'on avait faite, il fallait vérifier avec les personnes qui étaient non-voyantes que ça avait du sens de toucher ces objets et aussi discuter avec l'équipe de conservation enfin voilà, est-ce que cet objet était assez signifiant par rapport à ce qu'on raconte en parcours? Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Comment, en fait, parler de l'esclavage à des personnes qui ne voient pas? Évidemment, on avait pensé tout de suite aux entraves. Et il y a eu un échange très intéressant avec la directrice scientifique Christelle Gualdet qui a dit ah non, mais moi je veux pas qu'on utilise des entrapes parce que ça peut faire penser aux menottes. Les menottes, ça peut être aussi des jouets pour enfants. Et il faut pas en fait que ça devienne quelque chose d'anecdotique qui pourrait faire sourire. Et elle nous a proposé en fait ce qu'on appelle les entraves de cou. Alors, les entraves de cou, c'est les entraves qu'on met aux personnes lorsqu'elles ont essayé de s'échapper, en fait, qui pouvaient être touchées. Et lorsqu'on a fait les tests, notamment, il y a une personne non-voyante qui nous a dit, ah, mais ça me fait penser au collier de chien. Au collier de chien, okay. Et on s'est dit, bah, là, on tient le bon objet. Ce développement, il peut être fait soit avec, évidemment, tous les autres services du château, mais aussi avec donc des partenaires extérieurs. On n'hésite pas aussi parfois à travailler avec l'université, des partenaires extérieurs, hein, notamment sur l'évaluation. Depuis qu'on a réouvert en 2007, la manière de visiter, les publics, ils changent et ses attentes aussi. Ce qui est
Change.
extrêmement intéressant, c'est quand on fait de l'observation, c'est se rendre compte que parfois les gens vont utiliser le dispositif, pas de la manière dont vous l'avez imaginé, et c'est pas grave. On a fait tout un travail d'observation, etc., des gens. Et quand vous arrivez dans un monument du 15e siècle, comme un château, comme celui-ci, en fait, vous avez l'imaginaire qui démarre et vous avez envie de toucher les murs. Vous allez avoir des perceptions sensorielles si la pièce est petite, si c'est un jour où c'est chauffé, si on vous emmène notamment celles qu'on peut servir de cachot. Qui sont noirs et sombres, vous allez avoir des sensations corporelles. La question du tactile, c'est pas uniquement pour les déficients visuels, c'est pas uniquement pour les enfants, parce que c'est vrai que les jeunes enfants, on voit très bien, pour comprendre le monde, ça va se faire par la main et par aussi mettre les doigts dans la bouche. Hein. C'est un sens qui est important. Moi, à
D'accord.
chaque fois que je dis que nos planches thématiques elles sont tactiles, les gens ils commencent à regarder avec leurs mains. Hein. Là, on vient d'ouvrir une exposition sur l'Inde, et donc il y a tout un espace immersif au rez-de-chaussée. On invite les gens à passer à travers différents pans de tissu qui sont suspendus. Et en fait, les gens, ils adorent ça. Et en fait, tout le monde, à travers un petit bout, ils regardent de près. C'est très humain, toucher. Ça permet aussi d'appréhender, ce qu'on a autour de soi. Et après, voilà, les gens peuvent faire l'expérience ou pas. Je vois pas le public comme un espèce d'objet uniforme où tout le monde a les mêmes attentes, les mêmes représentations. L'équipe qui met en place le parcours, que ce soit un parcours permanent ou un parcours d'exposition, on le met en place et on invite après les gens. Ils peuvent décider de s'arrêter devant un tableau, de s'arrêter devant une vitrine, de faire la manipulation, qu'elle soit sur une borne interactive ou une manipulation, on va dire, physique. Voilà, nous, on propose et eux, ils disposent. Le travail sur les sens, le travail émotionnel, je pense que les musées le prennent de plus en plus en charge et on sait que ça ne va pas servir qu'à un seul public, ça sert à tous les publics. Et de plus en plus, on utilise les odeurs aussi dans les musées, sachant que c'est plus délicat, voilà, à manipuler, etc. Donc oui, je pense qu'il y a de plus en plus cette prise en compte de l'aspect sensible et sensoriel de l'expérience de la visite d'un musée ou d'un monument. Et c'est plus aussi la question, si vous voulez, de l'immersion. C'est une question finalement à la fois de réflexion sur la vulgarisation. Comment on amène les gens vers un savoir qu'ils n'ont pas forcément au départ. Ben ça, généralement, que ce soit le conservateur, le concepteur, enfin le commissaire d'une exposition, il a envie, lui, de faire passer des messages. Et comment il les fait passer? L'objet seul ne suffit pas forcément. Le rapport esthétique ne suffit pas forcément. Et donc, à partir de là, dans le travail en fait scénographique, on peut décider de faire un travail immersif. Et quand je dis immersion, l'immersion, c'est pas seulement un truc waouh, ça peut être utiliser plusieurs sens. Je dirais qu'il y a une posture, notamment dans les musées d'art, où il y a le côté vous êtes en présence de chefs-d'œuvre, c'est des œuvres fragiles, donc on met tout sous vitrine avec des mises à distance, etc. Dans les musées techniques, on fait beaucoup plus appel au toucher, puisque généralement on vous propose des expériences avec des maquettes, des choses à manipuler pour que vous compreniez en fait des processus intellectuels. Dans les musées archéologiques, il y a eu une révolution aussi, notamment, je pense, dans les musées de site, où souvent les œuvres, elles sont partielles. Donc, pour expliquer la démarche de l'archéologue, pour expliquer certains dispositifs, vous avez tout un dispositif de manipulation. Donc, effectivement, en fonction de la nature des musées, vous allez avoir ce rapport au toucher qui va être différent. Et dans les musées d'histoire, ben, les musées d'histoire, c'est finalement une approche très intellectuelle parce que comment on raconte une histoire avec des objets? Et donc souvent, l'objet, il ne parle pas tout seul ou il n'est pas suffisant. Derrière la manipulation, il faut penser aussi ça en termes de sociabilité. Les gens qui viennent tout seuls au musée, c'est généralement des gens qui ont l'habitude de visiter le musée, qui en fait sont dans une démarche très personnelle. Finalement, c'est les gens qui ont besoin le moins d'accompagnement. En fait, dans le cadre des parcours, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité d'aller chercher une information qu'on n'aurait pas mis, qu'elle soit textuelle, etc. Quand vous êtes peu habitué au musée, notamment le public primo-visiteur, il faut savoir que la plupart des gens, ils viennent au musée quand ils ont le temps, à savoir pendant leurs vacances. C'est-à-dire que ce n'est pas les musées les plus proches de chez eux, c'est vraiment ces musées voilà, dans les régions qu'ils visitent. Ces gens-là, ils viennent rarement seuls, vous partez rarement en vacances tout seul, vous êtes avec des amis, vous êtes en famille. Et donc, derrière aussi, on va dire, les espaces de manipulation, etc., vous avez aussi souvent des choses qui jouent en termes de sociabilité. C'est-à-dire que c'est par exemple le petit qui va manipuler, mais le parent va l'aider, ou le grand-parent va l'aider, ou le grand frère va l'aider à interpréter, voilà, et aller jusqu'au bout de l'expérience. Et ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Parce que pour que la visite devienne agréable, il faut que ça ne ressemble pas à la visite. Vous avez plein de gens hein, qui ont des super mauvaises vies, souvenirs de visite de musée, de visite scolaire. Il fallait pas bouger, pas toucher, rien faire. Et ce qui est intéressant, c'est en termes d'échange. C'est-à-dire que quand une personne non-voyante touche une entrave de cou et qu'elle est avec une personne voyante, le dialogue, il se fait dans les deux sens. C'est pas la personne non-voyante, elle n'est pas seulement là pour être accompagnée. Elle va, elle, percevoir des choses de manière sensible parce qu'elle a développé ses autres sens puisqu'elle ne voit pas. Et l'échange qu'elle va avoir avec la personne voyante, elle est hyper intéressante et elle va permettre à la personne voyante de percevoir des choses qu'elle n'aurait pas vues, elle, parce que justement, elle est voyante et donc c'est son sens du toucher, il est moins aiguisé. En fait, aujourd'hui, la vulgarisation, elle n'est pas seulement descendante, voilà, de l'expérience en fait entre visiteurs, mais aussi voilà des choses importantes. Et cette notion de sociabilité, elle est, voilà, je pense que c'est des choses qu'il faut travailler.